Bleu, RCFM. France Bleu.
RCFM, Christine Aloudi, les experts.
Soyez les bienvenus dans Les Experts, il est 9h30, c'est Christine Aloudi et je suis ravie d'être avec vous jusqu'à 11h. Nous serons en direct avec notre experte jusqu'à 10h30. J'espère que vous allez bien. Toute l'équipe est là avec moi, avec Jean-Mi à la technique, Carole au standard. Et aujourd'hui, nous allons parler motivation et scolarité, comment motiver vos enfants et vos ados. C'est le sujet du jour. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à témoigner et à participer en direct en composant le 04 95 32 22 22 ou directement sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Aloudi.
Quelles sont les clés de ce moteur interne qui peut déplacer des montagnes? Quels sont les freins à la motivation? Et qu'est-ce qui provoque la démotivation? Quelles sont les erreurs à éviter? Bref, comment redonner le plaisir d'apprendre aux enfants et aux ados? Décryptage avec notre experte du jour, Brigitte Pro. Bonjour. Brigitte?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors Brigitte, vous êtes psychopédagogue, vous êtes enseignante et formatrice et vous avez conçu la méthode bilan et itinéraire de motivation et d'orientation. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct. Hein. Si vous voulez témoigner, comment vous faites pour motiver vos enfants? Quelle est votre méthode? J'aimerais aussi avoir le point de vue d'élève. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous démotive? Venez tout nous dire au 04 95 32 22 22. Alors, Brigitte, je le disais, vous êtes notre experte du jour. Hein. Alors déjà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la motivation? Parce qu'il y a beaucoup de... En motivation, on peut chercher dans le dictionnaire, bien entendu. Mais selon vous, qu'est-ce que c'est la motivation?
Alors, l'étymologie latine de motiver, la motivation, c'est movere qui signifie se mettre en mouvement. Donc, c'est vraiment rejoindre son propre désir d'apprendre hein, pour un élève, pour vraiment entrer dans l'action et se donner toutes les chances de réussir, d'apprendre, d'avancer. Et se motiver dans les apprentissages, c'est évidemment... Grandir, c'est le fait de pouvoir avancer dans la vie tout court, en quelque sorte, c'est-à-dire pouvoir traverser toutes les étapes en fonction des âges et être mené vers l'avenir, par l'avenir, en quelque sorte.
Alors, évidemment. Oui, allez-y, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé.
Oui, du coup, effectivement, des élèves qui se trouvent démotivés se trouvent dans une situation de frein ou de stagnation. Et du coup, exprime par là, quelquefois, la peur d'avancer, la peur de grandir, des craintes pour l'avenir, avec des freins divers et variés dont nous allons parler, évidemment,
oui, bien sûr,
de cette émission.
Alors, il y a plusieurs façons de se mettre en mouvement. On peut être ou tiré ou poussé. Hein, c'est la pression qu'on peut mettre sur nos enfants, de qui on attend beaucoup. Est-ce que ça a la même efficacité? Non.
Alors, non. Puisque, évidemment, tirer au sens bienveillant du terme, en respectant les étapes, là, évidemment, un enfant, un adolescent va pouvoir avancer à son rythme vers l'avenir, alors que pousser avec une pression sur lui peut relever d'un frein à la motivation.
Voilà, donc ça va être contre-productif.
C'est ça.
Alors, justement, en préparant cette émission, j'ai appris, parce qu'on apprend quand on prépare les émissions, qu'il y avait deux types de motivation. Alors, il y avait la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle est la différence?
Oui, la motivation intrinsèque, c'est celle qui se trouve bien à l'intérieur donc d'un enfant, d'un adolescent pour quelque chose de direct, c'est-à-dire Max est motivé par l'histoire. Donc il est motivé par l'histoire, il va apprendre évidemment ses leçons en histoire, il va avoir envie de travailler cette matière. Alors que la motivation extrinsèque, ce sera par exemple, Max travaille l'histoire parce que ses parents lui ont dit que s'il avait 14 en histoire, eh bien, il aurait un smartphone à Noël.
Donc c'est la carotte en fait.
Extrinsèque,
hein.
Prenant son objet à l'extérieur, quoi.
C'est la carotte en fait. Hein.
Voilà, c'est la carotte, tout à fait.
Mais j'ai envie de dire, on peut pas vraiment, je dirais, raisonner en binaire avec la méthode intrinsèque et la méthode extrinsèque. Il y a un petit peu une complémentarité toujours, quelque part.
Alors toujours les deux sont liés évidemment, puisque la motivation est complexe, donc on ne pourra pas effectivement, comme vous le dites, dire soit c'est intrinsèque, soit c'est extrinsèque. C'est beaucoup plus complexe que cela et les deux sont en permanence évidemment à l'œuvre. Hein. Oui.
Alors est-ce que ça se fabrique la motivation, Brigitte?
Alors ça se construit, ça ne se décrète pas en tout cas. Ça se construit et surtout en interaction avec les autres. Par exemple, Loïc en interaction avec la motivation de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses copains-copines, de ses camarades de classe, bonne ambiance, mauvaise ambiance, en lien avec aussi la motivation de ses professeurs. Et ça se construit effectivement pas à pas. Et là, c'est vraiment la logique des petits pas, hein, petit à petit. Et donc, en interaction avec les autres, eh bien, si les autres, évidemment, sont porteurs eux-mêmes de motivation, s'ils ont envie d'encourager, très bien. Mais si, à un moment donné, une mauvaise ambiance ou le fait de vivre le pire dans la relation avec les autres, eh bien... Là, nous pouvons trouver des freins à la motivation, par exemple.
Vous pensez, par exemple, à du harcèlement scolaire ou
à un sujet qui est... Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment l'exemple le pire aujourd'hui, hein, par exemple. Donc, la démotivation scolaire qui peut vraiment faire perdre... En tout cas, le harcèlement scolaire, pardon, qui peut vraiment faire perdre une envie d'apprendre, une envie d'avancer, puisque ça touche le narcissisme. Donc, vraiment quelque chose de profond en soi. Et quand quelqu'un est humilié, bien sûr, il n'a plus l'énergie, il ne trouve plus la ressource pour croire en lui et pour avancer.
Est-ce que c'est une des principales causes de démotivation à l'école que vous recevez dans votre cabinet ou bon, il y en a d'autres, bien sûr, on les abordera, mais est-ce que ça fait partie d'une des principales causes, justement, le harcèlement scolaire ? Puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui.
Oui,
hein.
Oui, depuis quelques années, je reçois de plus en plus des élèves qui ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Avec beaucoup de silence, nous avons l'impression aujourd'hui que tout le monde parle plus facilement. Or, ça n'est pas si simple, en fait, puisque beaucoup de collégiens particulièrement taisent cela. Et quelquefois, j'accompagne, par exemple, en ce moment, un élève qui est vraiment très démotivé par cette rentrée. Et nous avons vu hier qu'il a vécu une situation de harcèlement en CM2 alors qu'il se trouve en 3e. Et comme il n'en a pas parlé, voilà qu'elle se réactive en lui, en fait. Et donc la crainte de la relation aux autres, la crainte d'être rabaissé, humilié, vient remplacer, vous voyez, un levier de motivation pour lui en cette rentrée. Et du coup, formidable parce qu'il a pu le dire, mais vous voyez, depuis le CM2,
vous imaginez,
ses parents étaient éberlués.
Non mais si vous nous écoutez, hein, les élèves, les enfants, si vous nous écoutez, vraiment vous êtes à l'école peut-être maintenant, mais peut-être qu'il y en a, ils ne sont pas encore rentrés. Vraiment, si vous vivez une situation de harcèlement, il faut vraiment en parler tout de suite. Il ne faut pas attendre des années, des mois. Voilà. Non, il faut enrayer tout de suite.
Oui.
Voilà, si vous êtes malade, que vous allez chez le médecin, eh bien, en 3 jours vous n'avez plus rien. Si vous continuez, si vous laissez s'installer, eh bien, ça va mettre plus longtemps à guérir. Et là, c'est exactement la même chose, hein, Brigitte.
Oui. Avec les mots que vous venez d'exprimer, c'est exactement ça. Et ça peut se réactiver même très très longtemps après, quelquefois même au début des études supérieures. Quelqu'un, par exemple, n'a plus envie d'avancer dans ses études, il se demande pourquoi. Bon, il y a quelque chose à régler. En fait, il y a une porte à fermer qui n'a pas été fermée dans le passé, en gros.
Oui, c'est ça. Donc, il faut le faire tout de suite. Hein. Je me recommande vraiment, si vous êtes victime de harcèlement, il faut en parler à vos parents, à un psy, à qui vous voulez, mais il faut vraiment en parler pour enrayer tout de suite cette situation. Alors, est-ce qu'on est vraiment tous égaux face à la motivation, Brigitte ?
Alors nous sommes tous des êtres humains avec nos ressources et l'égalité, là, ça a peu de sens puisqu'il s'agit de savoir ce dont on parle. En revanche, il y a une équité, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement quelqu'un a toutes les conditions, tout le contexte dans lequel il peut être respecté, dans lequel il peut être encouragé, a priori, dès l'enfance, en tout cas, dès qu'un enfant naît, eh bien, le désir d'apprendre pour lui est là, hein, puisque
puisqu'il apprend à marcher,
puisque a besoin d'apprendre pour rester en vie sur Terre, en gros. Et contrairement à certains mammifères, comme le poulain, qui finalement, au bout de 20 minutes, se trouve à 4 pattes, le bébé, lui, pour devenir enfant et pour évidemment exister après dans la société, a besoin d'apprendre à marcher. Vous voyez à quel âge, hein ?
Oui, bien sûr, mais sur cette motivation, donc, justement, je pense que les facteurs sociaux, que le contexte du moins familial est super important.
Alors voilà, c'est pourquoi je parle effectivement d'équité plutôt que d'égalité, oui. Puisque là...
Le mot était mal choisi.
Mais en tout cas, le mot égalité que vous employez, c'était, je pense, dans ce sens.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire, là, où naît-on est-ce que effectivement il y a les conditions qui permettent d'avancer ou pas? Et là, évidemment, il y a quelque chose à faire par rapport à la société dans laquelle nous naissons, c'est-à-dire l'école... En lien avec les parents, évidemment, la nécessité d'un partenariat, de pouvoir vraiment communiquer pour que, lorsque les conditions ne sont pas tout à fait là, eh bien, il y ait une compensation quelque part, qu'on puisse vraiment aider l'enfant à exprimer son potentiel.
C'est votre rôle aussi aujourd'hui de compenser des fois ce déséquilibre familial entre guillemets.
Alors oui, puisque j'accompagne parfois effectivement des familles entières, c'est-à-dire d'un côté les parents que j'accompagne et leurs fils ou leurs filles par exemple. Et effectivement, compenser, c'est permettre aussi aux parents de trouver en eux les ressources quelquefois pour faire autrement. Chacun fait comme il peut avec effectivement là où il se trouve, ce qu'il a. Et les parents, évidemment, sont très, très demandeurs de réponses et d'accompagnement pour le meilleur, pour eux-mêmes d'abord en tant qu'adultes, puisque se respecter déjà en tant qu'adulte permet de respecter l'enfant, évidemment, et lui permet de se motiver davantage. Et à partir de là, il y a encore une fois toutes les interactions entre tous les membres d'une famille, après avec les personnes effectivement à l'école.
Et puis moins
là,
de tension.
Il y a vraiment quelque chose de collectif à construire.
Je dis moins de tension du coup. Puisque...
Alors voilà, moins de tension, tout à fait.
Moins de tension et c'est le mieux vivre ensemble quoi au final.
C'est ça, c'est ça.
Alors, on a une auditrice.
L'expression est tout à fait adaptée pour le coup, puisque mieux vivre ensemble, c'est vraiment chacun qui prend sa part, chacun qui joue son rôle à sa place. Et vraiment, le monde changerait si chacun déjà faisait à sa place.
Bien sûr. Alors, on a une auditrice, Brigitte, on va reprendre notre conversation, bien sûr, mais on a une auditrice qui voulait vous poser une question, qui voulait témoigner. Oui. Bonjour, Martine.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Voilà, je voulais vous poser le cas d'une petite fille de 10 ans qui travaille bien à l'école, qui lit beaucoup, qui fait ses devoirs, qui apprend ses leçons, mais qui ne les récite pas.
Elle est motivée, Martine. Oui, vous nous entendez, Martine?
Oui, je vous écoute.
Ah, oui, je disais, elle est motivée du coup, elle apprend ses leçons, elle n'a pas...
Ah oui, elle est motivée.
Elle est motivée. Alors Brigitte, qu'est-ce que... Bah, vous êtes avec Martine, je vous laisse avec Martine.
Oui, bonjour Martine.
Oui, bonjour.
La question que vous posez, c'est en tout cas ce qui vous pose question, c'est qu'elle ne les récite pas, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
Alors elle pour moi, la seule question...
Ce qui est en groupe, elle refuse, par exemple, le sport à l'école. Elle ne fait pas le sport.
Chose, du coup.
Tout ce qui est, je ne sais pas, qui semble compétition, elle refuse.
Alors, réciter une leçon, il vous semble que pour elle, ça signifie compétition, c'est ça que vous dites?
Pardon?
Ne pas vouloir réciter une leçon, pour vous, c'est parce qu'elle refuse la compétition, c'est cela que vous dites?
Il me semble, si je vous appelle, c'est parce que j'ai besoin de conseils.
Oui, bien sûr. Alors, pour moi, il y a deux choses différentes, là, entre le sport et la récitation des leçons. Si elle ne récite pas ses leçons... peut-être, en tout cas je ne connais pas cette petite fille, donc je ne prétends pas faire une consultation individuelle, je n'ai pas tous les éléments, en tout cas par rapport à ce que vous dites, si elle n'apprend pas, si elle ne récite pas ses leçons, la seule question à se poser, c'est a-t-elle de bons résultats? Oui ou non?
Oui, elle a de bons résultats.
Voilà. Donc, ça signifie qu'elle n'a pas besoin de les réciter puisqu'elle est autonome.
Mais pardon, excusez-moi, je rentre dans la conversation parce que Martine, vous nous avez appelé hier, mais ce qui vous posait problème, c'est qu'elle ne veut pas réciter ses leçons devant ses camarades. Elle ne veut pas prendre la parole en public, c'est ça,
Elle ne veut rien faire. Elle ne veut pas faire le sport. Elle a refusé à la fin de l'année de jouer dans une pièce de théâtre à la fête de l'école.
Mmh. Ah, vous ne parlez pas de réciter les leçons à la maison.
Non, c'est devant les élèves.
Devant les élèves,
Alors, oui, là, elle a donc une attitude par rapport aux autres effectivement, elle se trouve aussi à un âge où beaucoup d'enfants ont cette attitude, c'est-à-dire le fait de craindre le regard des autres. Donc, réciter devant tout le monde le regard des autres, donc le jugement, le sport, c'est se montrer évidemment face aux autres, jouer dans une pièce de théâtre, c'est se montrer aussi face aux autres. Donc, la crainte du regard des autres, il s'agit là de pouvoir l'écouter dans ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains quand tu, finalement, ne veux pas te montrer face aux autres? Et là, vous pouvez avoir derrière plusieurs freins différents. Le harcèlement dont on parlait tout à l'heure, ça pourrait être effectivement une situation qu'elle vit et qu'elle tait, et par le fait de refuser de s'exposer aux autres, eh bien, elle est en train de parler, là. C'est-à-dire, son corps parle, le fait de refuser cela parle, au lieu de dire vraiment la situation. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être tout à fait autre chose, quelque chose qu'elle a vécu en ce début d'année. Ça dépend si c'était déjà effectivement là l'année dernière ou cette année. Quelque chose qu'elle a vécu en début d'année. Imaginez qu'elle ait voulu s'exprimer en classe et que quelqu'un finalement lui ait dit quelque chose d'humiliant. Enfin, ça peut tout être là derrière. C'est-à-dire, il s'agit de voir avec elle pourquoi cette attitude, qu'est-ce qu'elle ressent. Est-ce que quelqu'un l'embête? Et du coup, il s'agit de lui poser la question en direct, au lieu de dire, évidemment, est-ce que par hasard tu serais harcelé? Je propose, moi, qu'on ne prononce pas ce mot harcelé. En revanche, dire à son âge, est-ce que quelqu'un t'embête? Est-ce que tu as peur de quelque chose à l'école? Qu'est-ce que c'est exactement?
Justement, Martine, quelle était l'excuse pour pas jouer la pièce de théâtre?
Voilà, c'est ça.
Ah mais elle ne donne pas d'excuses. Le jour de la rentrée, le maître leur a demandé à tous de se présenter.
Oui.
Elle ne s'est pas présentée.
Mais elle est timide dans la vie de tous les jours?
Non, elle n'est pas timide.
C'est-à-dire qu'avec vous, qu'avec ses parents, avec sa famille, avec...
Oui, je comprends. Elle n'est pas timide. Et par exemple, on parlait du sport. Le mercredi, elle fait du trapèze.
Mm-hmm. Donc elle en fait à l'extérieur.
À l'extérieur, très bien. Il y a d'autres enfants à côté d'elle, mais chacun pour soi. C'est individuel.
Bon, après, elle a peut-être un esprit. Après, elle a peut-être un esprit. Moi, j'ai faisais du tennis. J'avais pas un esprit de groupe entre guillemets,
oui,
on va dire.
C'est ça. À son âge, oui. Ouais.
C'est pas. Mais ce qui est le plus. Enfin, si elle est pas timide et qu'elle peut faire des choses en dehors de l'école et que c'est vraiment à l'école que ça lui pose problème, Brigitte. Attention, je suis pas experte en la matière. C'est vous l'expert. Mais est-ce que le problème vient pas justement que le problème n'est pas à l'école vraiment, quoi?
Alors effectivement, là, on en sait un peu plus. Si à la maison, il n'y a pas effectivement ce comportement, si à l'extérieur, elle fait du trapèze, évidemment, le lien est à faire directement avec le cadre scolaire. Donc quand vous dites compétition, est-ce qu'elle-même se met la barre trop haute, par exemple? Bon, à partir du moment où elle réussit, ça veut dire qu'elle s'autorise à réussir, hein. Donc pour moi, ça me pose vraiment très peu de questions. En revanche, il s'agit vraiment de prendre un temps avec elle et de l'écouter. Car lorsque vous dites qu'elle ne s'est pas présentée à l'école, pour moi, c'est vraiment le travail de l'enseignant qui ne peut pas laisser passer ça. C'est-à-dire qu'il doit prendre un temps avec cette petite en disant « Ben, ce matin, je vois que tu ne t'es pas présentée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne ?»
Oui, vous voyez, ne serait-ce que ça. Les enseignants sont très, très bien avec elle. Parce que c'est depuis la maternelle, hein.
Ah oui, ben là, si ça dure, évidemment, il y a vraiment à l'écouter, là. Elle, quand on lui a demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle répond, là, depuis toutes ces années?
Non, eh ben moi, j'ai pas envie de me montrer, de parler devant les autres.
Oui, mais quand on lui demande pourquoi, tu fais du trapèze à l'extérieur et à l'école, tu ne fais pas de sport, comment tu comprends ça? Vous voyez, des mots comme
oui,
ça, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle a souhaité pour ses 10 ans un saut en parapente.
Oui.
Elle l'a fait. Ravie, là, mais c'était comme le trapèze. C'était individuel.
Oui, ben, très bien. De toute façon, à son âge, il y a des étapes.
Oui, c'est pas
mais quand vous lui dites ça, c'est-à-dire, regarde, tu fais du trapèze à l'extérieur, du parapente, donc vraiment, tu es très motivée par cela. Et pourquoi pas de sport à l'école? Qu'est-ce qu'elle répond quand cette question-là précise lui est posée?
Ben, en fait, elle est là, elle ne répond pas, la...
Sauf Comment ?
À l'école, j'ai pas envie.
Voilà, c'est à l'école, j'ai pas envie.
Mais pourquoi ? Très volontiers à l'école. Et elle travaille bien. C'est ça qui est un peu...
Non, là, en fait, la réponse se trouvera dans la sollicitation de cette petite sur cette question très simple. C'est-à-dire, comment nous, tes parents, nous pouvons comprendre qu'à l'école, tu ne fais pas cela, alors qu'à l'extérieur, tu le fais. Et là, petit à petit, avec des questions simples, il s'agit qu'elle puisse vraiment exprimer. Imaginez qu'elle dise, à l'école, ça m'intéresse pas de le faire. Eh bien là, évidemment, le cadre de l'école par rapport à un sport, de compétition, un sport qui place la barre assez haut, l'école n'est pas à la hauteur de ça, en quelque sorte. C'est-à-dire, l'école ne propose pas vraiment, à son âge en tout cas, de compétition réelle, surtout effectivement avec ce que nous faisons à l'école aujourd'hui. Et donc peut-être elle se dit c'est bien plus intéressant de le faire à l'extérieur, parce qu'au moins là il y a un challenge, il y a un défi. Si sa motivation fonctionne au défi, peut-être que les défis ne sont pas assez grands dans le cadre scolaire, auquel cas là il s'agit que l'enseignant puisse lui donner, ou l'enseignante, un rôle évidemment plus challengeant, si j'ose dire, par rapport à ses camarades. Par exemple, elle peut aider d'autres camarades sur certains exercices. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, de la place de cette petite à l'école par rapport à sa motivation qui fonctionne peut-être au défi. Ou alors, comme je vous dis, elle a été moquée à l'école, voire humiliée. Dans ce cas-là, elle craint plus que tout le regard des autres. Du coup, elle n'exprime pas totalement qui elle est, en fait. Et alors qu'elle peut l'exprimer à l'extérieur. Mais là, la réponse viendra effectivement de la question qu'on va lui poser, des questions simples. Comment se fait-il ? Car si ça dure, vous voyez, dans le temps comme ça, peut-être à un moment donné aurait-elle besoin de quelques séances avec une psychologue ou un psychologue pour pouvoir relier ces deux mondes, en gros.
Oui.
C'est-à-dire le monde à l'extérieur et le monde à l'école. Qu'il n'y ait pas un mur entre les deux, car ce que vous décrivez, moi, me fait penser à ce schéma-là. Ce que je fais à l'école, ce que je fais à l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose vraiment sur lequel insister. Quand elle ne se présente pas en classe, si l'enseignant, vous voyez, ne prend pas, ou l'enseignante ne prend pas 5 minutes avec elle en disant là, je vais te demander de te présenter cet après-midi, donc je vais préparer ça avec toi, mais c'est important que tu te présentes, vous voyez. Alors que si l'adulte laisse passer ça, eh bien, c'est en quelque sorte l'encourager à continuer dans ce sens, en fait. Donc c'est important de l'aider à rassembler ces deux mondes, en fait.
Martine, est-ce qu'elle en souffre ? Est-ce qu'elle en souffre ? Est-ce qu'elle le verbalise ? Est-ce qu'elle souffre de cette situation à l'école, ou ça lui convient finalement ?
Non, elle n'en souffre pas.
Elle n'en souffre pas.
Et elle réussit à l'école, vous voyez, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ça ne pose pas trop question. Mais en tout cas, si elle n'en souffre pas, mais si elle ne se présente pas, ça va quand même assez loin, vous voyez. Elle ne dit pas, je m'appelle, et je suis là avec vous, en gros, C'est-à-dire, c'est comme si elle se plaçait ailleurs. Donc, ça serait intéressant de voir, avec l'enseignant, avec elle, mais en lui posant vraiment des questions simples, pour l'aider à rassembler tout cela, quoi.
Oui. Et hier, l'enseignant lui a demandé que fait ta maman, il faut que je le sache. Eh bien, elle lui a dit ce que fait la maman, sans problème.
Mais devant les autres élèves ?
Non, je crois qu'ils étaient à part. Je ne peux pas exactement vous dire.
Alors, ce que je vous propose, c'est on va faire une petite pause. On va retrouver le journal et la météo. Et puis, on va se reprendre tout de suite après. Martine, si vous voulez rester avec nous ou nous rappeler pour poursuivre la conversation, c'est volontiers.
Oui, écoutez, je ne raccroche pas. Donc.
Allez, ne raccrochez pas alors. On se retrouve tout de suite après.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rombo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream.
sont sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits, Paris est vraiment ma.
Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Elle t'a plaqué, fais les gamos, pour du coco sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims, pas convoitisé. Charlie Delta localisé, l'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama, dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Le Bousano et Hermès. Lui vite ton sac, j'fais la recette.
Passe avant minuit. Sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits, Paris est vraiment ma.
Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais.
Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes en tutelle ou curatelle? Vos droits changent. Vous êtes libre de voter aux élections. Vous pouvez aussi vous marier ou vous paxer avec la personne que vous aimez, simplement en informant votre tuteur ou curateur. Parlez-en à vos proches. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur justice.fr.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Et on jette un œil du côté du temps. Pour aujourd'hui, le ciel est variable toute la journée, mais le temps demeure généralement sec. Quelques rares averses sont possibles sur le relief, plutôt en début d'après-midi. Vent généralement modéré, d'est tournant nord-est. Température maximale entre 24 et 27 degrés sur le pourtour du département et dans le Cortenay. Sur les autres régions, comprises entre 20 et 22 degrés. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, et le président de l'association des familles des victimes du crash de la caravelle Ajaccio-Nice, Mathieu Paoli, qualifie d'avancée très très importante la volonté du chef de l'État Emmanuel Macron de demander la levée du secret défense dans l'enquête sur la catastrophe qui avait fait 95 morts au large de Nice le 11 septembre 1968. Les familles des victimes n'ont jamais cru à la thèse officielle de l'accident. Ils sont convaincus que l'avion a été abattu par un tir de missile accidentel. 51 ans de souffrance pour toutes ces familles qui attendent de connaître cette vérité que nous connaissons d'ailleurs déjà, mais pour au moins que ce soit dit officiellement, que ce secret défense soit enfin levé. pour pouvoir dire oui, la justice reconnaît enfin ce tir de missile, a réagi Mathieu Paoli, vous l'entendrez dans le journal de midi. Une partie de la flotte de lutte contre les incendies bloquée au sol, ça peut impacter concrètement la Corse si des incendies se déclaraient. Il s'agit des 7 trackers. La décision a été prise après un problème sur l'un de ces bombardiers d'eau survenu dimanche soir sur la base du Pélicandrome de Béziers-Cap d'Agde. Le tracker qui intervenait sur l'incendie de Pézenas a été victime d'un gros incident alors qu'il roulait sur la piste. Son train d'atterrissage s'est brusquement affaissé. Par mesure de précaution, les 7 trackers sont donc placés au hangar le temps d'une inspection générale. Un incendie hier soir à Bastia, un incendie d'un appartement des quartiers sud au deuxième étage d'un petit immeuble de 3 étages d'une résidence de Montezor. L'appartement d'une quarantaine de mètres carrés a été détruit. Pas de blessés. Le relogement des résidents a été pris en charge par la mairie. Toujours à Bastia, vers 21h15, c'est une voiture qui a été brûlée. Cette fois, c'est dans le quartier de Togg, au nord. Depuis le début de l'année, l'épidémie de voitures incendiées à Bastia et sa proche région flirte avec la centaine.
Merci Didier Arnoux.
L'autonomie énergétique de la Corse en 2050, c'est possible en misant sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Entreprises, collectivités, associations, l'AUE et l'ADEME s'engagent en soutenant vos projets innovants et exemplaires.
Ensemble, construisons la Corse de demain. Une énergie appel à Bane.
Retrouvez les appels à projets bois énergie, rénovation énergétique des bâtiments, éclairage public, solaire thermique et études petite hydroélectricité sur le site aue.corsica.
Maman, tu aimes les bonbons ?
Tu sais, c'est pas trop bon pour mes dents et ma carie.
Mieux prendre soin de ses dents, c'est important. Comme mieux voir, mieux entendre aussi. Et c'est pour ça que Via Santé, la mutuelle d'AG2R, la mondiale, va pour vous plus loin. Optique, audition, dentaire, avec sa garantie santé Protect Via. Ses services et tous ses ateliers prévention, Via Santé fait toujours mieux pour votre santé. Et en plus, en ce moment, pour toute nouvelle adhésion, 3 mois offerts sur votre garantie santé, selon conditions.
Plus d'informations sur viasanté.fr.
France Bleu et Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits, mais aussi les loisirs et la culture, se retrouve pour Évasion en France. Tous les mois, Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et adresses de sa région préférée. Le formidable comédien Bernard Lecoq nous entraîne à Paris, à la découverte de son 17e arrondissement. De l'Arc de Triomphe au marché Poncelet, un beau quartier doté d'un superbe patrimoine architectural, mais aussi d'une âme populaire. Tous les mois, Évasion en France. Dans Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christina Luzzi, les experts.
Bienvenue dans la seconde partie des experts. On parle aujourd'hui scolarité et motivation. Comment motiver votre enfant ou votre ado? Et avec Brigitte Pro, qui est notre experte du jour. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue, enseignante et formatrice. Et vous avez publié « Je ne suis pas motivée, je ne fais pas exprès les clés de la motivation scolaire ». Vous avez également créé une méthode de motivation à destination des élèves qui s'appelle « Bilan et itinéraire, motivation et orientation ». Alors on parlait tout à l'heure de confiance, hein, avec Martine, avec sa petite fille qui avait quelques soucis, non pas de motivation, hein, mais peut-être de confiance en soi ou même pas, enfin, à l'école. On va parler justement confiance en soi. Brigitte, est-ce que la confiance en soi est importante dans la motivation ?
Alors fondamental, il y a plusieurs formes de confiance en soi en fait. Hein. J'en propose 4. Confiance en son potentiel, en ses différentes formes d'intelligence, confiance en ses connaissances, ses compétences, confiance en sa capacité à communiquer avec les autres, à interagir, à co-construire, et confiance en sa capacité à se projeter. Et là, c'est la question de l'orientation, hein, qui est abordée. Donc, 4 formes de confiance en soi. Et effectivement, je n'ai jamais rencontré aucun élève qui manque totalement de confiance en lui. Il y a au moins l'une des 4, hein, qui est davantage développée, par exemple, que les autres. Et la notion de confiance en soi est vraiment centrale là. Ça veut dire se fier à soi-même, hein, c'est-à-dire avoir suffisamment de sécurité interne pour se lancer, quoi.
Est-ce que vous avez des enfants justement qui ont une de ces quatre formes de confiance en eux et où les parents ne leur faisaient pas confiance? Est-ce que ça a un impact sur l'enfant si le parent n'a pas confiance, enfin du moins pas n'a pas confiance, mais des fois on peut dire des choses où l'enfant peut croire qu'on n'a pas confiance en lui, par exemple lui répéter 50 fois fais tes devoirs ou t'as fait tes devoirs. C'est une forme de manque de confiance. Est-ce que ça peut peser sur le moral des enfants et justement le démotiver ?
Alors ça pèse énormément aujourd'hui, hein, puisqu'ils sont beaucoup sous pression. L'exemple que vous venez de donner, moi je le rencontre vraiment chaque semaine. Et pour l'anecdote, un élève que j'ai accompagné, un élève de 6e, qui avait vraiment confiance en lui par rapport à sa capacité, par exemple, à travailler régulièrement. Il avait envie de s'y mettre, vous voyez. Et il me disait, mais madame, moi, ce qui me démotive, c'est que je porte sur le dos 65 kilos. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Il avait vu une émission sur les 14 kilos de cartable sur le dos.
Ah oui,
hein,
non, j'allais dire, bah, décidément, dit... les livres, ils pèsent voilà. Lourd.
Donc il me dit, mais moi ça me fait pas peur puisque je porte 65 kilos, mais c'est tellement difficile. Et donc, de quoi tu me parles? Et il m'a dit, c'est ma mère qui pèse donc 65 kilos.
D'accord.
Alors évidemment, il ne voulait pas dire que sa mère, en tant que personne, hein, était lourde. Son comportement, en revanche, c'est-à-dire... Il disait qu'en rentrant, alors que lui, il avait bien en tête qu'il allait relire, voyez, le travail du jour, voilà, eh bien, sa mère, avant même qu'il puisse s'asseoir ou qu'il puisse commencer à lui parler, en rentrant vraiment de l'école, la première chose qu'elle lui disait, c'est ça. C'est bon, allez, dépêche-toi de faire tes devoirs, ou bien, bon, le contrôle pour demain, ça y est, enfin, vous voyez, des choses comme ça.
Ouais.
Et évidemment, là... un adolescent, un enfant peut très bien avoir envie de s'y mettre, mais si tout d'un coup l'adulte, vous voyez, pose cela avant qu'il s'y mette, ben ça peut vraiment avoir un effet dévastateur. C'est-à-dire il n'a plus envie, mais plus du tout. Pour le coup de travailler là.
C'est un petit peu notre vie. Enfin, on est tous soumis aux mêmes choses. Le travail, oui. les courses, la maison, les tâches ménagères, etc. Et c'est un petit peu ça aussi qui peut causer la démotivation, puisque on est tous soumis à ça aujourd'hui. C'est notre oui. Notre génération, on va dire.
Alors oui, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choses hein, très très sous pression tous. La question du stress. Du coup, l'importance d'en être conscient. Et d'aménager certains comportements qui soient effectivement davantage zen, quoi. Hein. C'est-à-dire que évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi la crainte chez beaucoup d'adultes de l'avenir pour leurs enfants.
Oui, surtout.
Pour moi, voilà. Pour moi, je trouve franchement que cette génération d'enfants a beaucoup de ressources. Simplement, elle est pressée comme un petit peu le
comme
citron,
un citron,
là, voilà. Et là, il y a vraiment cette question, puisque franchement, ils ont envie de bien faire hein, dans l'ensemble et ils ont envie d'y être encouragés. Donc, il s'agit que les adultes se fassent davantage confiance à eux-mêmes d'abord pour faire confiance un peu plus à leurs enfants.
Qui est primordial hein. dans la motivation, du coup.
Oui, primordial. Et ça rejoint aussi la question de l'estime de soi, hein, c'est-à-dire la valeur qu'un enfant, qu'un adolescent s'accorde. Est-ce qu'il s'accorde suffisamment de valeur pour dire « allez, j'avance » ou bien est-ce qu'ils se prennent pour effectivement moins que rien hein, par exemple, est-ce qu'ils ont du mal avec cela? Et ça suppose que les adultes aient une estime d'eux-mêmes aussi relativement solide pour évidemment les accompagner.
Donc vraiment hein, valoriser, encourager son enfant et ne,
oui.
ne pas peser de tout son poids sur son dos. On parlait justement de cette génération d'enfants aujourd'hui, ce qu'on n'a pas eu trop nous, enfin ça commençait mais on l'a pas trop eu, mais c'est les smartphones, les tablettes.
Oui.
Est-ce que ça peut être un frein à la motivation, parce qu'aujourd'hui les enfants ils sont captivés par ça?
Alors ça peut être un frein considérable quand il y a addiction, puisque dépendance, addiction signifie qu'ils ne sont pas leurs pilotes dans leur propre avion, en fait.
On va faire une émission là-dessus, justement. On va faire une émission là-dessus sur l'addiction au smartphone, aux tablettes, puisqu'on ne parle pas encore d'addiction. Hein. Ça n'avait pas été encore défini comme, mais enfin, je pense qu'il y a de l'addiction quand même.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, c'est la dépendance qui est problématique, et c'est aussi la question de l'attention et de la concentration. Un ouvrage vient de paraître qui dit que effectivement voilà une génération d'enfants qui a une capacité d'attention comme celle d'un poisson rouge. Le poisson rouge peut se concentrer vraiment quelques minutes. Il n'a pas d'idée du passé ni de l'avenir et du coup il vit l'instant quelques minutes. Or là, évidemment, moi je n'irais pas jusqu'à dire cela parce que c'est quand même un petit peu dramatisant. Mais j'accompagne, par exemple, depuis 2 ans, et c'est très nouveau dans ma pratique, des enfants, des adolescents qui ont du mal à se motiver, qui ont du mal à rester sur un travail, par exemple, plus de 10 minutes. Hein. Et donc, je les accompagne pour les entraîner à se concentrer dans la durée. Eh bien, je sais que derrière, c'est la question du smartphone qui est vraiment à jouer là, et d'autant plus dans les familles dans lesquelles il n'y a pas de contrat sur les écrans. Donc je propose vraiment aux parents de poser des contrats horaires pour leurs enfants, pour les smartphones, parce que là, il y a vraiment un gros problème, et aussi ce à quoi ils ont accès sur le smartphone.
Bien sûr.
Quand ils sont évidemment traumatisés par des images, on a beau dire, il faut en parler avec eux, mais de toute façon, la majeure partie, ça c'est vraiment assez hypocrite en fait, car la majeure partie des images qu'ils regardent, les parents n'en ont absolument pas conscience.
Complètement.
Si les parents imaginaient 2 secondes ce qu'un enfant de 11 ans a pu voir, mais ça leur ferait peur.
Mais on le voit nous, hein, des fois en surfant sur Internet, il y a des pop-up qui s'ouvrent et on voit très bien ce qui s'affiche. Enfin,
mais oui.
Déjà pour nous adultes, ça peut être choquant, j'imagine pas pour un enfant de 10
tout
ou 11 ans. Quoi.
Oui, voilà.
Mais, et puis en plus, je pense qu'on a vraiment une génération, je peux l'observer autour de moi, qui a un seuil de tolérance à la frustration et à la contrainte qui est très bas.
Oui.
Et est-ce que ça joue pas dans la démotivation, justement ?
Alors ça joue énormément, puisque se motiver, effectivement, suppose d'avoir été éduqué au manque et à l'attente, en fait. Hein. Quand je manque de quelque
dans
chose,
la frustration,
quand je suis
hein.
en attente... Pardon ?
Je dis, on se construit dans la frustration. Hein.
Bon, voilà, on se construit dans la frustration, car à un moment donné, on ne peut pas avoir tout de suite, ça ne s'appellerait pas le réel, hein, sinon. Et puis, pour avoir envie de conquérir, avoir envie d'avoir un examen, avoir envie, effectivement, de rejoindre un projet d'orientation, une école, encore faut-il que ça se joue dans la durée. Donc, il y a des moments d'échec, il y a des moments où il faut faire des efforts. Tout ne tombe pas comme cela. Or, voilà une génération qui a été habituée à penser au tout de suite, à tout ce qui tombe, ou à la chance, par exemple. Un lycéen, hier, me disait « Oh, madame, je verrai bien, je rêve d'une école, vous savez, mais on verra si j'ai la chance. » Et je lui dis « Mais là, la chance, tu vas te la construire, parce que si tu la rencontres, c'est parce que tu iras vers elle. Hein. » Et il dit « Ah oui, d'accord, alors qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour ma chance en juin, quoi ?» Et là, vous voyez, là, du coup, il changeait effectivement de raisonnement, et c'est vrai que leur seuil de tolérance est très bas, et les parents qui peuvent éduquer leurs enfants à la frustration, c'est vraiment intéressant. Alors je ne leur propose pas de les éduquer uniquement à la frustration,
non,
évidemment,
bien sûr.
Mais qu'ils attendent un peu, qu'ils manquent un peu pour évidemment être poussés à conquérir, à faire des efforts pour évidemment avancer. Et cette génération est très peu éduquée à l'effort. Hein. Or, l'effort, ils en ont besoin. Et quelquefois, c'est là qu'arrive la détresse pour eux quand en terminale, ils voient que finalement, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'effort, eh bien, ils attendent toujours la facilité. Et donc, du coup, quelquefois, ils manquent leur orientation à cause de ça, en disant, mais si on m'avait appris à faire des efforts, quelquefois, ils l'apprennent même, ils apprennent à le faire au lycée, ou ils apprennent à le faire plus tard dans les
très
études.
Tard, trop
et c'est
tard.
Douloureux pour eux, oui, c'est très douloureux pour eux, quand il faut apprendre ça à 18 ans, 20 ans, 21 ans. Et là aussi, avec les smartphones,
c'est
quelque
chose... Tout de suite.
Comment ?
C'est le tout de suite avec les smartphones aussi.
Alors voilà, c'est le tout de suite et ça arrive à eux, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de faire une démarche. Et il y a aussi un autre point, moi, qui me gêne énormément, c'est-à-dire voilà que nous éduquons une génération entière à baisser la tête, rien que ça. Et donc, ça n'est pas que symbolique, à mon avis. Hein. C'est-à-dire quand tout d'un coup, des enfants sont habitués à baisser la tête pour regarder le smartphone. Donc, hein. Donc ils ne regardent plus autour d'eux. Et évidemment, se motiver, aller vers l'avenir, grandir, c'est lever la tête, oui. Hein, évidemment. Donc, il y a tout cela. Un scientifique, l'autre jour, me disait... qu'au point de vue biologique, il estimait que les vertèbres cervicales allaient, dans l'évolution à 50 ans, 100 ans d'ici, allaient changer. Parce que il y a toute une génération qui baisse la tête, et il y a une vertèbre, il m'a dit la C5, je crois, une vertèbre qui pouvait changer d'aspect, vous voyez, avec l'habitude de baisser la tête comme ça. Mais... Enfin, vous voyez, donc ça peut aller très loin, quoi.
Donc il faut vraiment contraindre les ados pour les motiver, pour avoir une hygiène de vie, pour faire attention à toutes les addictions, parce qu'on parle de l'addiction au téléphone, mais il y en a bien d'autres. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, même si on ne va pas, ben, les choses viennent à nous. Il faut être encore plus vigilant que pouvaient l'être nos parents. Voilà, à notre époque. Est-ce que on traite la motivation et la démotivation différemment si on a affaire à un enfant ou à un ado, Brigitte ?
Alors oui, c'est fondamentalement différent. Hein. Les professionnels qui accompagnent les enfants, ceux qui accompagnent les adolescents, nous avons des démarches différentes. L'adolescent se trouve dans le passage entre l'enfance et l'âge adulte, et tout ce qui relève du désir de ses parents, il va aller contre. Et donc, plus ses parents vont répéter, plus ils vont générer chez lui l'envie de faire l'inverse, en gros. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, j'accompagne des adolescents qui travaillent en cachette, eh bien, vous avez un exemple illustratif. C'est-à-dire, ils ne veulent pas montrer à leurs parents qu'ils travaillent.
Ah ben oui, voilà. Vous voyez ? Donc c'est quand même... Non, mais c'est quand même fou.
Oui, c'est fou. Et moi, c'est assez nouveau hein, dans ma pratique depuis 3 ans, disons. Mais du coup, ils ne veulent pas montrer à leurs parents qu'ils travaillent, mais eux... sont suffisamment intelligents pour se dire « Mais si je ne travaille pas du tout, madame, vraiment, je n'aurai pas la vie que je veux. » Enfin, ça, franchement, je pense qu'ils sont très conscients de cela pour la majorité d'entre eux. Du coup, je ne montre pas à mes parents que je travaille. J'alimente leur angoisse et du coup, aussi, ça peut me faire rire parfois. Enfin, il y a ça aussi. Hein.
C'est quelque part une forme de rébellion, en fait.
La même chose, c'est aussi un jeu. Enfin bon. Et je travaille quand même, à minima, pour avoir mes examens. D'où l'étonnement de certains parents de voir leur fils ou leur fille avoir son examen, son bac, son brevet des collèges, alors que, disent-ils, mais il n'a rien fichu de l'année, quoi.
On va en parler, d'ailleurs, des prophéties qui peuvent être autoréalisatrices. Mon enfant est bon en maths et bon en français, on en fait un matheux ou un littéraire, on va en parler. D'abord, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Et je vous rappelle que nous sommes en direct, si vous êtes enseignant, élève, parent, partagez avec nous vos témoignages ou appelez-nous pour poser vos questions à Brigitte au 04 95 32 22 22.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Experts, Christina Luzzi.
RCFM, il est 10h22, bienvenue si vous nous rejoignez dans Les Experts. On parle aujourd'hui motivation et scolarité, comment motiver ses enfants à l'école. Et pour ce faire, je suis en compagnie de notre experte Brigitte Proulx, qui est psychopédagogue, formatrice et enseignante. Brigitte, alors on parlait tout à l'heure des élèves qui travaillent en cachette pour engrosser les parents. Je disais, il faudrait peut-être faire aussi attention à un truc qu'on a tous entendu. Hein. Tu es bon, Mathieu. Est bon en français, et puis finalement on excuse quelque part que l'enfant ait de moins bonnes notes en maths ou en français, parce que est-ce qu'on peut pas comme ça, avec des prophéties, j'ai envie de dire autoréalisatrices, finalement faire un matheux ou un littéraire?
Oui, bien sûr, la prophétie autoréalisatrice intervient beaucoup hein, dans la motivation, du coup ça crée un conditionnement. Et un enfant, un adolescent peut vivre avec cette conviction que dans telle ou telle matière, il ne peut pas réussir, en revanche qu'il est fait pour, effectivement, comme vous dites, les maths, le français. Or, cette prophétie autoréalisatrice peut vraiment freiner bien des élans, hein, puisque si un enfant ne se sent pas autorisé à réussir dans un domaine parce que ses parents effectivement lui parlent vraiment d'autre chose, eh bien là il y a toute une partie qu'il aurait pu explorer qui quelquefois va sortir de son champ de motivation.
Alors justement, Brigitte, je rappelle, hein, vous avez créé une méthode, bilan et itinéraire de motivation et d'orientation. Vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer un petit peu comment ça se passe et puis voilà comment ça se passe.
Alors, je pars effectivement de la construction de ce bilan. D'abord, je repère les points d'appui, les atouts, les points forts d'un enfant, d'un adolescent. Sur quoi peut-il s'appuyer pour avancer? Ensuite, je repère les freins. Qu'est-ce qui le freine? Et un frein correspond à un besoin auquel répondre. C'est-à-dire, à chaque frein, je propose un plan d'action, une réponse, avec des échéances. C'est-à-dire, effectivement, une date à laquelle l'enfant, l'adolescent sort de ce frein-là, quoi, se trouve libéré de ce qui l'entrave, en quelque sorte. Donc, ça suppose, après le bilan, un accompagnement et une action pour les personnes aussi qui l'entourent, quoi, c'est-à-dire un comportement de la part de ses parents, quelquefois de la part de ses frères et sœurs, quelquefois, effectivement, un enseignant, une enseignante. Je travaille avec les familles et avec l'école pour, effectivement, accompagner un enfant ou un adolescent.
C'est vraiment un travail collectif, hein.
Oui, tout à fait, avec un plan d'action concret. Et le travail collectif me paraît central, puisque les mêmes informations, du coup, sont données aux parents, à l'enfant, l'adolescent, et avec l'accord des parents, les informations sont données aux enseignants. Et évidemment, si les parents ne souhaitent pas effectivement un partenariat avec les enseignants, bah, c'est aussi leur liberté. Mais là, les situations qui vraiment ont une efficacité maximale, c'est quand chaque personne est impliquée. Donc les personnes de la famille, l'école et effectivement l'accompagnateur.
Oui, parce que on rappelle quand même que l'enseignant a aussi un rôle central hein, dans la motivation de l'enfant. Hein. Moi, je me rappelle, je prends mon cas, mais je prends mon cas parce que je sais que j'allais à des cours plus volontiers avec tel ou tel prof. et moins bien volontiers sûr. Avec tel ou tel prof, parce qu'il y en avait qui arrivaient à nous motiver, et c'était pas forcément les plus cool. Là, on reparlait des contraintes tout à l'heure, mais je me rappelais, j'avais un professeur de physique, monsieur Pierre, ici nous écoute, j'adorais aller à son cours, et pourtant, bah, il nous faisait pas sortir à la récréation, si on avait 4 heures d'affilée avec lui, on n'avait pas d'intercours, c'était 4 heures de cours, etc.
Ah, oui.
Mais j'adorais aller à ce cours, parce que c'était quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui connaissait son métier et qui n'avait pas un livre, c'est-à-dire qu'il faisait tout, et on pouvait lui poser n'importe quelle question, c'était un livre, il répondait à tout, et pourtant, voilà, c'était un prof qui était super sévère, et justement, on a besoin, justement, comme on disait tout à l'heure, de ces contraintes, et je pense que l'enseignant a son rôle dans cette motivation.
Alors, l'enseignant joue un rôle énorme dans cette motivation. De son comportement, on va effectivement dépendre beaucoup de la motivation d'un enfant, d'un adolescent. Du coup, de son comportement en classe et de ses compétences, vous venez de le dire, ça suppose de la part de l'enseignant un positionnement clair par rapport effectivement aux élèves. C'est-à-dire, imaginez une attitude d'humiliation en classe, une attitude qui dise aux élèves « tu réussiras pas ». Bon, à un moment donné, évidemment, c'est tout à fait freinant. Et de la même façon, effectivement, à l'opposé de par rapport à ce que vous dites, un enseignant qui croit en lui et qui avance lui-même et qui se trouve compétent, passionné par sa discipline, qui a envie de faire passer tous ces messages-là et de transmettre à des élèves pour qu'ils construisent leur propre autonomie et leur liberté, évidemment, ça change tout, bien sûr. L'enseignant qui traîne des pieds en disant de toute façon le système ne m'intéresse pas et on n'y arrivera jamais à rien parce que ceci, cela, là franchement moi je propose à ces enseignants de changer de métier aujourd'hui.
Il faut que ce soit une vocation, hein, je le dis tout le temps, enseignant c'est une vocation et on fait pas ça, c'est pas un métier alimentaire, on va dire.
C'est ça. Et l'exemplarité du comportement aussi.
Tout à fait.
Là, il y a quelque chose, effectivement, de central, surtout pour cette génération d'enfants, d'adolescents qui n'est vraiment pas dupe. C'est-à-dire, concrètement, ils savent reconnaître les compétences. Ils sont extrêmement observateurs et aiguisés là-dessus. Quelqu'un qui les respecte, quelqu'un qui a quelque chose à transmettre, ou quelqu'un qui est enfermé dans la plainte permanente, par exemple, auprès d'eux.
Hein. Oui.
Là, évidemment, ça change tout. Oui.
Mais c'est quelque chose, on le répète, mais c'est vraiment central, quoi. Et on accepte plus l'autorité, justement, de quelqu'un qui inspire le respect que de quelqu'un qui vient le matin entrer dans les pieds, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Et dernier conseil, Brigitte, parce qu'on arrive en fin d'émission.
Oui.
Malheureusement, déjà, ça passe très, très vite, mais on va refaire une émission avec vous. Hein. On va reparler, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Un dernier conseil pour les parents, justement, si votre enfant est démotivé ou s'il manque de motivation, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose.
Alors, le dernier conseil, la première chose, c'est de prendre un temps avec l'enfant, avec lui, pour l'écouter, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois que je vois ça, donc des faits. Je vois que le matin, voilà ce qui se passe, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment envie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe pour toi à l'école, etc. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et vraiment d'écouter en prenant un quart d'heure, pas forcément plus, mais que l'adulte soit lui-même sans smartphone à la main.
Voilà, important. Attention au smartphone. Effectivement, on peut pas dire à l'enfant « Attention, tu es trop sur ton smartphone » si du matin au soir, on l'a à la main et on le fait tous.
Oui.
C'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Brigitte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps qui est précieux. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre site internet France Bleu RCFM ou sur notre page Facebook. Et demain, dans Les Experts, on parlera d'un autre sujet qui anime cette rentrée, les retraites, avec notre expert retraite Cyril Carli. Vous pouvez déjà m'envoyer vos questions sur mes réseaux sociaux, comme certains le font, ou sur les réseaux sociaux France Bleu RCFM, ou nous appeler demain quand on sera en direct à partir de 9h30.
France Bleu RCFM.